de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Les Jeux Olympiques de Tokyo sont proposés pour devenir un événement de dialogue d'État. Les cas de COVID-19 montent en flèche. La Finlande a déclaré l'état d'urgence. Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN se sont réunis mardi pour discuter de la Birmanie. Les Philippines commencent un programme de vaccination de la COVID-19. L'Indonésie est conforme au principe de la charte de l'ASEAN. DPD de la République d'Indonésie espère que la province de Kapuas Raya sera bientôt réalisée. La production de riz a le potentiel d'augmenter fortement cette année. Voici le journal complet. Le président sud-coréen Moon Jae-in a suggéré que les Jeux olympiques de Tokyo au Japon en juillet août soient l'occasion pour les États-Unis et la Corée du Nord d'avoir un dialogue. Moon considère également que le tournoi sportif quadriennal peut être utilisé pour améliorer les relations entre un certain nombre de pays en conflit d'Asie de l'Est, en particulier pour réorganiser les relations entre les deux Corées qui ont été tendues ces derniers temps. Moon Dang-jung Park de Séoul lundi a souligné que le match prévu cette année pourrait être l'occasion d'un dialogue entre la Corée du Sud et le Japon, la Corée du Sud et la Corée du Nord, la Corée du Nord et le Japon, et même la Corée du Nord et les États-Unis. À cette occasion, Moon a également souligné que la Corée du Sud était prête à travailler avec le Japon pour faire des Jeux olympiques de Tokyo un succès qui est considéré comme capable d'aider les deux pays d'Asie de l'Est à se remettre de l'impact de la pandémie de coronavirus. Le gouvernement finlandais a déclaré lundi l'état d'urgence alors que les cas d'infection à COVID-19 dans le pays montaient en flèche. Avec un statut d'urgence, les restaurants sont fermés, diverses autres règles ont été mises en place pour faire face à la pandémie de coronavirus. Cette mesure a été prise par le gouvernement car une nouvelle variante de coronavirus a contribué au pic des infections finlandaises à COVID. L'état d'urgence permet également au gouvernement de continuer à fermer les écoles et restreindre les déplacements entre les régions. La première ministre finlandaise, Sanna Marin, a déclaré que le gouvernement voyait la nécessité de réduire les contacts. Plusieurs régions de Finlande ont connu une augmentation rapide des infections au COVID-19 au cours des deux dernières semaines. La Finlande est l'un des pays d'Europe les plus touchés par l'épidémie de coronavirus. Le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan, a déclaré que le ministre des Affaires étrangères de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ou ASEAN tenait une réunion spéciale mardi pour discuter de la Birmanie. Le ministre des Affaires étrangères, Balakrishnan, a également appelé à la libération immédiate du dirigeant renversé de la Birmanie, Aung San Suu Kyi. Balakrishnan, au Parlement, a souligné lundi qu'une réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN avait lieu par vidéoconférence et qu'à ce moment-là, sa partie écoutait les déclarations des représentants des autorités militaires birmanes. Balakrishnan a également demandé aux autorités militaires birmanes de cesser d'utiliser la force qui pourrait faire tuer des personnes et prendre immédiatement des mesures pour réduire les tensions afin d'éviter davantage d'effusions de sang, de violences et de morts. Les Philippines ont commencé lundi le programme de vaccination contre la COVID-19 en donnant la priorité aux agents de santé lorsqu'ils tentent de sécuriser les approvisionnements en vaccins pour lutter contre l'une des épidémies de coronavirus les plus difficiles en Asie. Les agents de santé de 6 hôpitaux gouvernementaux de la région de la capitale ont reçu dimanche le vaccin Sinovac Biotech offert par la Chine, le seul vaccin que les Philippines ont reçu à ce jour. Les Philippines ont signalé 576 352 cas de COVID-19 au total, y compris des infections par la variante la plus contagieuse du coronavirus britannique. Le pays a enregistré 12 318 décès. Le vice-président de la Chambre des représentants indonésienne, Aziz Syamsuddin, a déclaré que l'Indonésie est cohérente dans l'application des principes de la Charte de l'ASEAN pour répondre au développement de la dynamique politique en Birmanie. Aziz, dans un communiqué de presse à Jakarta, lundi a souligné que l'Indonésie était très préoccupée par l'évolution politique en Birmanie et qu'en tant que pays ami et membre de la famille élargie de l'ASEAN, on espère que la situation politique antérieure en Birmanie se dressera. Aziz a estimé que toutes les formes de violence contre les civils ne peuvent être justifiées. Il espère que toutes les parties pourront retenir et promouvoir le dialogue afin qu'il reste dans le cadre d'une démocratie qui donne toujours la priorité à l'humanité. Aziz a ajouté que le gouvernement indonésien continue de déployer tous les efforts possibles pour que le processus démocratique en Birmanie revienne dans la direction qu'il devrait prendre et ne se transforme pas en un nouveau problème géopolitique dans la région Indonésie-Pacifique. Le président du Conseil représentatif régional ou DPD de la République d'Indonésie, Lanyala Mataliti, espère que la formation de la province de Kapuasraya dans Kalimantan Occidental sera bientôt réalisée afin qu'elle puisse accélérer le processus de développement et améliorer le bien-être de la population dans le nouveau candidat provincial. Lanyala, lors d'être conférencière dans la réunion avec le gouvernement provincial de Kalimantan Occidental, l'Agence de planification du développement national, le ministre de coordination des affaires politiques, juridiques et de sécurité, le Parlement indonésien et le ministre de l'Intérieur virtuellement a souligné lundi que la formation de la province de Kapuasraya de Kalimantan Occidental devrait avoir un bon impact pour le bien-être de la société. Pendant ce temps, le gouverneur de Kalimantan Occidental, Sutarmidji, a déclaré que l'expansion de la province de Kapuasraya était très importante à faire. L'objectif est d'accélérer le développement. Le chef de l'Agence centrale indonésienne des statistiques, ou BPS, Suharyanto, a déclaré lundi que cette année, la production nationale de riz a le potentiel d'augmenter de 4,86% en raison de la récolte élevée du début de l'année. Cependant, Suharyanto a rappelé que la saison des pluies et les inondations sont également assez importantes et peuvent avoir un impact sur les mauvaises récoltes. Sur la base des enregistrements de BPS, le mouvement de la production de riz a atteint 54,56%. Pendant ce temps, la superficie totale de récolte en 2020 a atteint 10,66 millions d'hectares, le plus grand centre de production étant la province de Java Oriental. La production de riz en 2020 a également augmenté de 31,33% par rapport à 2019, qui n'était que de 31,31%. Selon Suharyanto, malgré la légère augmentation, le gouvernement a réussi à contrôler la production de riz afin que les besoins des populations soient toujours bien satisfaits. Serge Zuritar, c'était le journal de la Voix de Musique à Jakarta. Sergeant Blanten, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre « Pendant un an, l'Indonésie lutte contre la COVID-19 ». Aujourd'hui, c'est exactement un an que l'Indonésie est officiellement aux côtés de COVID-19. Le 2 mars 2020, le président Joko Widodo a annoncé le premier cas d'infection à COVID-19 en Indonésie. Après cela, le nombre de cas positifs de COVID-19 en Indonésie a toujours été affiché dans divers médias. Au lundi, le 1er mars 2021, le nombre total de cas de COVID-19 en Indonésie a atteint 1,341,314 personnes. Depuis l'annonce du premier cas, le gouvernement indonésien a préparé des mesures pour faire face à la pandémie de COVID-19 qui a tué plus de 2,4 millions de personnes dans le monde en raison de leur exposition au virus COVID-19. Outre la gestion dans le secteur de la santé, des politiques visant à faire face aux impacts économiques ont également été menées. Les étapes dans le secteur de la santé comprennent la nomination d'un hôpital de référence, la conversion de la maison d'hôte des athlètes en un hôpital d'urgence COVID-19 et la publication de règlements pour contenir la propagation à partir des appels à distanciation physique, des restrictions sociales à grande échelle, l'actuelle restriction des activités communautaires à micro-échelle. Le gouvernement indonésien a également pris des mesures diplomatiques pour fournir des vaccins à 70% de la population indonésienne afin de supprimer la propagation ou la création d'une immunité communautaire. Les résultats sont visibles. L'Indonésie vaccine depuis le 13 janvier 2021. Outre l'achat de vaccins auprès des pays producteurs de vaccins, l'Indonésie crée et développe également des vaccins au niveau national. En donnant des instructions lors d'une réunion de direction de TNI Polri à la mi du mois dernier, le président Joko Widodo avait ordonné d'accélérer la production de vaccins rouges et blancs. On espère que ici, la fin de 2021, le vaccin rouge et blanc pourra être produit. Dans le domaine économique, on espère que la reprise économique pourra être réalisée d'ici la fin de 2021. À tout le moins, cette conviction possédée par Banque Indonésie ou BI est optimiste quant à la possibilité de réaliser la reprise économique nationale en 2021. Le gouverneur de la BI, Perry Warjio, a expliqué lors de la réunion annuelle 2020 de la Banque d'Indonésie, BI optimiste que cela peut être réalisé en renforçant les synergies à travers un prérequis et 5 stratégies. Un prérequis est la vaccination et la discipline du protocole de COVID-19 et 5 stratégies de réponse politique, à savoir l'ouverture de secteurs productifs et sûrs, l'accélération de la relance budgétaire ou réalisation du budget, l'augmentation du crédit du côté de l'offre et de la demande, la relance monétaire et les politiques macroprudentielles et la numérisation de l'économie et des finances. Vu la distribution et l'impact de COVID-19 extraordinaire, des mesures ordinaires ne peuvent être prises. Comme le président Joko Widodo l'a souvent déclaré à diverses occasions, des mesures extraordinaires sont nécessaires pour faire face à la pandémie de COVID-19 et à ses effets. Bien sûr, il espère que toutes les composantes connexes de la nation indonésienne joueront un rôle proactif en soutenant les mesures extraordinaires du gouvernement. Mais en fait, il existe des mesures simples que le peuple indonésien peut prendre pour réduire la propagation du virus de COVID-19. Cette étape simple consiste à appliquer strictement les protocoles de santé. Il ne devrait jamais y avoir un mot fatigué et ennuyeux à mettre en œuvre des protocoles de santé. Tout le monde doit porter des masques, maintenir une distance physique et se laver les mains. Ensuite, ils doivent participer à chaque innovation dans la gestion de l'éradication de COVID-19. Chaque individu joue le meilleur rôle possible pour arrêter la propagation de COVID-19 en Indonésie et restaurer l'économie nationale. J'espère qu'il n'est pas nécessaire d'attendre l'année prochaine pour y arriver. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o cakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à tous, je vais vous présenter l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie avec moi Audrey. Nous commençons par les événements du 3 mars 1974, le crash de Turkish Airlines. Le 3 mars 1974, 346 personnes sont décédées lors qu'un avion de la compagnie aérienne turque, Turkish Airlines,s'est écrasé dans le nord de Paris en France. Le numéro de vol 981, un DC-10 fabriqué par McDonnell Douglas, transportait 335 passagers et 11 membres d'équipage. L'avion à destination de Londres a explosé dans le ciel avant de s'écraser dans la forêt d'Herménoville,non loin de la capitale française. Sur la base d'une enquête menée par les autorités aéronautiques locales, l'avion a explosé après l'ouverture de la porte cargo alors qu'il était en vol. La perte de pression d'air dans la cabine fait déchirer le fuselage, ce qui à son tour endommage l'ensemble du système hydraulique de l'avion.En conséquence, le pilote a perdu le contrôle de l'avion jusqu'à ce qu'il explose enfin en l'air et s'écrase. Il s'agit du deuxième accident survenu au DC-10 en raison d'un système de verrouillage imparfait sur la porte de la cargaison.Chers amis, nous passons aux événements du 3 mars 1973. Lorsque le texte de la CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage, menaçait d'extension et menaçait d'être adopté par les Nations Unies. Lors de la 16e conférence CITES à Bangkok en 2013,Les participants à la conférence ont proposé à l'ONU que le 3 mars soit désigné et commémoré Journée de la faune et Journée mondiale de la faune. Le 20 décembre 2013, l'Assemblée générale des Nations Unies a finalement fixé au 3 mars une journée spéciale pour respecter la biodiversité mondiale, en particulier les animaux et les plantes sauvages.Jusqu'au 3 mars 2014, la Journée mondiale de la faune a été célébrée pour la première fois. Serge Lutard, on termine avec les événements du 3 mars 2005.
Steve Fossé a réussi à faire un vol en solo autour du monde sans escale. C'est Fossé qui a marqué l'histoire le 3 mars 2005 en effectuant un vol en solo ou en solo autour du monde sans escale, sans s'arrêter pour faire le plein. Il a réussi à voler sans pénurie de carburant du 28 février au 3 mars 2005. Bien qu'il y ait peu d'inquiétude que le calcul puisse être manqué et le faire manquer de carburant lorsqu'il est dans le ciel. Mais il a réussi à le prouver en volant pendant 67 heures, qui s'est terminée à Salina, Kansas. Serge Littard, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Kau tak pernah berubah, kau masih saja dengan beran yang kau tak suka. Apa kata ayah? Jadi pembatas ruang gerakmu berkarya. Maksud hatiku ingin bebaskanmu. Sekilas yang aku dengar, sekilas yang aku dengar.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le programme Mon Indonésie. Intitulé « L'Indonésie et la Suisse lancent ». Un programme de coopération pour la période 2021-2024. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, ministre de la Planification du Développement National, chef du BAPENAS de la République d'Indonésie, Soeharsomano Arfa, et secrétaire d'État, directrice du département économique du gouvernement suisse, SECO, Marie-Gabrielle Inaichen-Fleisch, le 25 février 2021, ont virtuellement lancé le programme de coopération au développement Indonésie-Suisse 2021-2024. Cette coopération est conforme au programme prioritaire du gouvernement indonésien tel que défini dans le plan national de développement à moyen terme et conformément au programme de développement durable de l'Indonésie. Comme indiqué sur la page kemlu.go.id, 27 février, l'événement a été ouvert par un discours de bienvenue de l'ambassadeur de Suisse en Indonésie, au Timor-Leste et à l'ASEAN, Kurt Koens, et a été suivi d'un discours liminaire de secrétaire d'État et directrice du SECO, Marie-Gabrielle Inchen-Fleisch, ministre indonésien de la planification du développement national Bappenas Suharto Manoarfa. L'événement a également été suivi par divers groupes, y compris des ONG indonésiennes, ainsi que le directeur général de l'Amérique et de l'Europe du ministère des Affaires étrangères, directeur général d'Amérope du ministère indonésien des Affaires étrangères, Murah Sujaya. Le ministre de la Planification du Développement National, chef de Bappenas Suharto Manoarfa, a exprimé sa gratitude pour le lancement de ce programme qui a accueilli les programmes prioritaires du gouvernement indonésien. Les diverses activités qui seront menées dans le cadre de ce programme prennent généralement la forme de formation, de renforcement institutionnel et de renforcement des systèmes pour renforcer la compétitivité économique de l'Indonésie conformément aux principes du développement durable. Entre-temps, le directeur général Murah Sujaya a expliqué que ce programme de coopération au développement est toujours organisé conformément aux priorités nationales de développement de l'Indonésie et prend en compte les résultats des évaluations de programmes précédents. Murah Sujaya estime que ce programme de coopération au développement profitera pas seulement au peuple indonésien et mettra en œuvre les priorités nationales, mais surtout améliorera les relations bilatérales entre les pays. Dans sa remarque de clôture pour l'activité de lancement, le directeur général d'Amérope du ministère des Affaires étrangères a exprimé sa gratitude pour la poursuite du programme de coopération mis en œuvre depuis 1976, qui comprend diverses formes d'activités sous forme d'éducation, formation, augmentant compétitivité et réalisation des objectifs de développement durable. Les grandes lignes de la coopération au développement suisse-indonésienne pour la période 2021-2024 incluent le renforcement des institutions publiques par une utilisation efficace des ressources et le renforcement de la compétitivité du secteur privé, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises, et le développement du tourisme durable avec un accent particulier sur questions d'égalité des sexes, des changements climatiques et de développement durable. En outre, Murah Sujaya a déclaré que le modèle de coopération au développement indonésien-suisse, qui est basé sur les priorités de l'Indonésie, peut être utilisé comme modèle pour une coopération au développement plus efficace. Selon lui, cette coopération pourrait également aider à préparer les entrepreneurs indonésiens en vue de l'utilisation de l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et la Suisse et plusieurs autres pays partenaires qui sont actuellement encore en cours de ratification en Indonésie et en Suisse. Bon, chers auditeurs, c'est tout mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
mengapa hatiku merasa sendiri, mencoba untuk melangkah pergi, berharap sang rindu panggil cinta lagi. Namun sepertinya kau telah berpaling. Buat apa mencoba untuk bertahan bila kau tak cinta aku lagi? Sama jadi percuma. Buat apa berjanji untuk kembali bila hatimu tak di sini lagi? Ku lelah menanti sesuatu yang tak pasti. Lemahku digantung asmara, sirna dan perlahan padamkan bara hati. Tapi apa arti berlari aku berharap kau datang kembali. Namun sepertinya kau telah berpaling. Jadi percuma. Buat apa mencoba? Kau tak cinta aku lagi. Semua jadi percuma. Buat apa berjanji bila hatimu tak di sini lagi? Semua jadi.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel intitulé « La danse de Yospan ». La danse de Yospan est une danse contemporaine qui reflète l'amitié des jeunes de Biak Numfor. Yospan est une fusion de deux danses folkloriques papou, à savoir Yosim et Panchar. La danse Yosim est originaire de la région de la baie de Sairei, Waropen. Le mouvement de cette danse est similaire à une danse européenne, mais dans cette danse, Yosim donne la priorité à la liberté d'expression des mouvements et s'appuie sur l'agilité du mouvement de danse. Et le panchar est une danse qui s'est développée à Biak Num Phor et à Manokwari au début des années 1960 pendant l'ère coloniale néerlandaise en Papouasie. Le début de son histoire de naissance est d'imiter les mouvements acrobatiques des avions qui étaient à ce moment-là traversés souvent le ciel de Papouasie. Par conséquent, cette danse qui imite les mouvements acrobatiques de l'air s'appelait à l'origine Panchargas, abrégé en Panchar. La danse de Yosim Panchar a des mouvements de basse pleins d'enthousiasme, dynamique et intéressante. Certains des types de mouvements bien connus, comme par exemple Panchargas, Galigale, Jeff, Pacholtiga, Seka et des autres. Ce mouvement de danse n'est pas difficile à apprendre. Cela a appris à la danse Yospan et s'est développé rapidement, non seulement dans les îles de Papouasie, mais dans d'autres îles de l'Indonésie. La danse de Yospan est généralement exécutée lors des événements traditionnels papou et de commémoration de la fête nationale. En raison de sa popularité, la danse de Yospan est souvent exposée dans chaque événement, activité d'accueil et festival des arts culturels. Yospan est également souvent exposée dans les pays étrangers pour répondre aux invitations ou assister aux festivals à l'étranger. La danse de Yosim Panchar a deux groupes de joueurs, à savoir des musiciens et des danseurs. Le mouvement de danse est généralement accompagné d'un instrument de musique en forme de tifa, un type de tambour en peau de lézard. Au cours de son développement, Yospan n'est pas seulement accompagné des instruments de musique de tifa, mais il y a aussi guitare, ukulélé et basse acoustique. La combinaison de tous ces instruments de musique produit une musique dynamique. Les vêtements portés par les danseurs caractérisent la culture papou avec leurs bibelots tels que des colliers et un os d'animal. Chers amis, c'était magazine culturel intitulé La danse de Yospan. Merci à tous et à bientôt. Good.
Charge Ritar, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi Audrey, le sujet d'aujourd'hui est Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? En français, combien de temps? Bonne écoute! Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? En français, combien de temps? Cette conversation se déroule entre Kevin et Boris. Boris est le nouveau voisin de Kevin. Boris voulait savoir depuis combien de temps Kevin habite dans ce complexe de logements. Bonne écoute.
Kevin, sudah berapa lama kamu tinggal di sini?
3 bulan.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? En français, combien de temps? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase 2 fois et puis vous pouvez me répéter. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? En français, depuis combien de temps? Tinggal? Tinggal, habiter ou vivre? Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? En français, depuis combien de temps tu habites ici? Sudah berapa lama kamu bekerja di sana? Sudah berapa lama kamu bekerja di sana? En français, depuis combien de temps tu travailles là-bas? 1 bulan. 1 bulan. 1 mois. Sudah berapa lama kamu menunggu? Sudah berapa lama kamu menunggu? En français, depuis combien de temps tu m'attends? 1 jam. 1 jam. En français, 1 heure. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu des questions. Sudah berapa lama tinggal di sini? Sudah berapa lama tinggal di sini? En français, depuis combien de temps habitez-vous ici? Dans cette question, il y a une phrase. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? En français, combien de temps? Expression sudah berapa lama? Sudah berapa lama, combien de temps, utilisé pour demander combien de temps quelqu'un habite dans un certain endroit. Par exemple, sudah berapa lama tinggal di sini? Sudah berapa lama tinggal di sini? Combien de temps habitez-vous ici? En plus de demander la durée du séjour, la phrase sudah berapa lama, en français depuis combien de temps, utilisé pour demander combien de temps quelqu'un fait quelque chose. L'exemple ci-dessous est de demander quand quelqu'un fait quelque chose. Sudah berapa lama kamu bekerja di sana? Sudah berapa lama kamu bekerja di sana? En français, combien de temps travailles-tu là-bas? Vous pouvez répondre avec 1 bulan. 1 bulan. En français, 1 mois. Un autre exemple. Sudah berapa lama kamu menunggu? Sudah berapa lama kamu menunggu? En français, depuis combien de temps attends-tu? Si quelqu'un demande quelque chose comme celui-ci dessus, vous pouvez y répondre par exemple. 1 jam. 1 jam. En français, 1 heure. Chers amis, avant de terminer à apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Kevin, sudah berapa lama kamu tinggal di sini?
3 bulan.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'Apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Kita di bawah hujan, langit tetap berderang, pelangi pun datang menjelang. Kita merayu malam, jangan sedih tenggelam. Bulan sabit beri senyuman. Kita meminta waktu, satu hari berhenti, satu masa dia memberi dunia. Dikala senja hidup berita.
Cher Jami, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute!
Bonsoir à tous, voici le magazine musical. Dans cette édition, je vous présente une chanson malaise intitulée « Jauh di Mata » chantée par Tia Ramon. Créée par H.S. Effendi, la chanson intitulée « Jauh di Mata » raconte quelqu'un qui manque un vieil ami qui ne s'est pas rencontré depuis longtemps. Il se souvenait également des moments quand il était avec ses amis. Il espérait que son ami lui donnerait immédiatement la nouvelle. Conformément aux paroles de la chanson, le tempo de cette chanson est triste et lent. Tia Ramon est un chanteur de Sumatra de l'Ouest. Il est populaire en tant que chanteur minang et malais. Bon, chers auditeurs, voici Jauh di Mata, ou en français Loin des yeux, chanté par Tia Ramon. Bonne écoute!
Thank you.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.